Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par un coup d'œil à la une de vos journaux. Et la veillée d'armes avant le déconfinement demain qui occupe presque tous vos quotidiens en région. À table se réjouit la Provence qui fait le point sur les règles strictes pour la réouverture des restaurants. Quelle sera votre première séance ? S'interroge la République des Pyrénées qui vous propose sa sélection des films à voir parmi le large choix. C'est vrai qu'il y aura embouteillage après 6 mois de fermeture des cinémas. Les commerces également dans les starting blocks, titre l'Alsace, pendant que le Progrès ose quand même la question. Est-ce vraiment raisonnable ? Reportage à l'appui dans le service de réanimation de la Croix-Rousse à Lyon, où les soignants restent sur le front, dit le journal. Libération s'interroge également. Est-ce vraiment l'heure de trinquer ? Météo capricieuse, jauge peu rentable, manque de main-d'œuvre. Libé liste les points d'interrogation qui persistent, notamment pour le secteur de la restauration. Parmi les autres grands titres, la fusion TF1-M6 fait également la une du Parisien aujourd'hui en France. La fronde des préfets s'affiche en grand dans le Figaro après l'annonce de réforme de la formation de la haute fonction publique. Et puis les sports. Et si on avait une surprise ce soir dans l'annonce de la liste des 26 bleus retenus pour l'Euro de foot par le sélectionneur Didier Deschamps, un retour de Karim Benzema qui réalise une saison fantastique avec le Real Madrid ne serait plus à écarter selon l'équipe et le Parisien. Benzema qui n'a plus porté le maillot bleu depuis bientôt 6 ans. Mais avec le Covid, on a des listes élargies à 26 joueurs cette année. Possibilité donc. Verdict ce soir autour de 20h. Les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin Roche, on commence avec vous.
Et vous vous apprêtez peut-être à acheter un bien immobilier.
On l'espère.
Oui. Savez-vous exactement combien cela va vous coûter ? Car il n'y a pas que le prix affiché sur l'annonce de votre future maison ou futur appartement. Vous imaginez bien, il faut compter le montant du crédit, l'assurance,
oui.
Les droits de mutation, c'est ce qu'on appelle
Tiens,
ce sont les frais de notaire.
D'accord.
C'est le vrai nom des frais de notaire. L'apport personnel ou encore les frais de dossier de votre banque. Aujourd'hui, en France, dévoile ce tout nouvel indice de l'immobilier, tout compris, calculé précisément par le site Sologis en partenariat avec Empruntis. On a tendance à oublier, quand on recherche son nouveau logement, qu'il va y avoir des frais incompressibles. Et en fait, à Paris, le prix moyen du mètre carré affiché à 10 614 euros vaut en vrai 13 000 euros, c'est ce qu'il va réellement vous coûter, ce prix au mètre carré à
Lyon.
Déjà
que ce n'était pas donné.
Voilà. Oui, c'est vrai, ça plombe un peu l'ambiance. Il est de 7 000 euros à Lyon, 6 000 à Bordeaux, 5 500 à Nice. Alors aujourd'hui en France, on fait un petit tableau avec des cas concrets. Hein. Voilà, alors vous choisissez qui ?
Alors qu'est-ce qu'on choisit ?
Mehdi, 25 ans, qui investit dans son premier logement. Maëva et Hugo, trentenaires, ils achètent dans le neuf. Sonia et Philippe, quadra avec deux enfants, ils revendent pour acheter. Marie et Francis, couple de jeunes retraités. Ou Claire, 45 ans, qui achète seule après son divorce.
Le jeune couple ?
Maëva et Hugo achètent dans le neuf. En région parisienne, leur premier appartement, un 3 pièces de 60 mètres carrés.
Félicitations.
Prix du bien avec travaux, hein, pour mettre à leur goût. 216 360 euros. Leur revenu chaque mois est de 3 000 euros net, hein, revenu du couple.
Ouais.
Ils ont 9 100 euros de côté, ce qui va leur permettre de payer la garantie hypothécaire, hein, cette garantie financière exigée par la banque pour se protéger contre le risque de non-remboursement du crédit. Ils payent aussi les frais de notaire, alors c'est entre 2 et 3% hein, du prix du bien
pas
dans
plus.
Le neuf.
D'accord, dans le oui, neuf. Dans le neuf. Dans le vieux, c'est 7-8%.
7% dans l'ancien, exactement. Et puis il y a les frais de dossier, ça ils vont le payer. Maëva et Hugo n'ont pas d'autre apport, donc ils vont tout emprunter pour financer leur achat. Ils peuvent solliciter un prêt à taux zéro pour une partie sur 20 ans et ils complètent avec un prêt classique, 1,36% d'intérêt, donc assurance inclus, sur 25 ans. Et bien au total, l'opération d'achat immobilier de Maëva et Hugo revient à 251 362 euros. C'est 35 000 euros de plus que
ce
prix
qui était donné au
affiché
départ
sur l'annonce immobilière. Voilà ce qu'ils vont payer pour leur bien immobilier. Combien ça va vous coûter lorsque vous achetez votre logement ? C'est la une d'aujourd'hui en France. Il y a plein de cas de figure différents.
Merci beaucoup, Omblin Roche. Je pense que ça servira à nombre de nos auditeurs. C'est une histoire d'eau qui m'a attiré l'œil, moi, ce matin. Vous avez déjà peut-être vu arriver dans les rayons de votre épicerie ou de votre supermarché ces nouvelles bouteilles d'eau, entre guillemets, de luxe, puisées au fond de la mer, issues d'icebergs ou carrément des nuages, soi-disant plus pures et vendu jusqu'à 10 fois plus cher que l'eau de source traditionnelle. Eh bien, Libération se penche sur ces eaux en apparence exceptionnelles pour en démonter les arguments marketing, analyse scientifique du CNRS à l'appui. Ces eaux de luxe nous vendent en effet l'idée d'une pureté d'abord. Et Libé de citer l'étiquette d'une de ces marques passées en revue, je ne résiste pas à l'envie de vous la lire. D'une extrême pureté car elle n'atteint jamais le sol. L'eau brise provient des brumes atlantiques qui couvrent les cimes des montagnes des Canaries, captées goutte à goutte.
C'est poétique en
c'est
plus.
C'est poétique, exactement. Ça fait à peine sourire la chercheuse du CNRS interrogée qui passe en revue la deuxième promesse de ces nouvelles marques, l'idée de propriété nutritionnelle décuplée. Promesse fallacieuse, balaie-t-elle la différence de teneur en minéraux entre ces eaux et l'eau en bouteille classique sont en réalité minimes. Rien qu'on ne trouve déjà ailleurs et parfois même moins de minéraux essentiels que dans l'eau du robinet, donc dans l'eau gratuite ou qu'on paye avec nos impôts. Alors comment est-ce qu'on explique que ces eaux connaissent aujourd'hui un tel succès en magasin? Eh bien le marketing, chers amis, rien que le marketing des bouteilles dignes de flacons de parfum, dans une ère aussi où les posts Instagram nous incitent peut-être à valoriser toujours plus ce qui nous semble venir de lieux inatteignables ou inaccessibles. Sauf qu'en réalité, derrière la pureté qui est vendue se cache une aberration écologique. Au Canada, des chasseurs tirent au fusil sur les icebergs pour en récupérer des fragments et les faire fondre et nous vendre cette eau 11 euros le litre, mais oui. Et s'ils peuvent se le permettre, c'est parce que la banquise fond. En termes de pureté environnementale, on repassera. Enfin, l'eau des nuages de Tasmanie, elle, va faire un voyage de 15 000 km en avion pour arriver dans l'Hexagone. Bonjour l'empreinte carbone. Conclusion de Libération, l'eau la plus respectueuse de l'environnement, c'est l'eau du robinet. Et en France, elle est de très bonne qualité. La mer à boire, L', c'est-à-dire dans Libération ce matin. Martin Lange, on termine avec vous.
Oui, avec la guerre des étoiles qui continue au cinéma. Alors, je ne vous parle pas de Star Wars, non, mais de l'un des pans les plus mythiques de la guerre froide, de la conquête spatiale. Pendant des décennies, Russes et Américains se sont tirés la bourre pour être les premiers dans l'espace, les premiers sur la Lune, les premiers dans l'ISS. Une bataille plutôt remportée par les Américains qui ont quand même marché sur la Lune. Mais les Russes ont décidé de prendre leur revanche au cinéma. L'année dernière, la NASA et SpaceX ont annoncé le tournage du premier film dans l'espace avec Tom Cruise en tête d'affiche. Et bien figurez-vous que les Russes ont annoncé il y a quelques jours qu'ils lançaient un projet concurrent et évidemment, ils veulent partir avant les
Donc
Américains.
On va vraiment filmer, on va envoyer des acteurs qu'on va filmer dans l'espace,
dans
c'est
l'ISS,
quand même assez incroyable.
Exactement. Alors pour eux, pour les Russes, pas de Tom Cruise forcément, mais une femme comme héroïne, Yulia Peresild et un jeune réalisateur, Klim Shipenko derrière la caméra. Pour l'occasion, la Station Spatiale Internationale sera transformée en véritable studio de cinéma.
Incroyable.
Le film s'appellera Le Défi, un drame spatial visant à populariser les activités de la Russie, ainsi qu'à mettre en lumière la profession de cosmonaute. C'est encore un peu flou, mais ça ressemble quand même à de la bonne vieille propagande.
On peut tous les doubler, hein, on dit à Thomas Pesquet de sortir son iPhone et de se filmer dans l'ISS, je pense qu'on est bien parti. L'annonce de ce tournage, en tout cas, Martin, marque un changement de stratégie de la part des Russes.
Exactement, pour l'agence spatiale russe, il s'agit de redorer son image. Roscosmos, c'est comme ça qu'elle s'appelle, a perdu le monopole des vols habités vers l'ISS au profit de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, une perte qui se chiffre en dizaines de millions de dollars. Alors elle se tourne vers le tourisme spatial et le cinéma pour faire entrer un peu d'argent dans les caisses, en attendant peut-être une nouvelle station 100% russe dans les années à venir. Premier film dans l'espace, les Russes prennent Tom Cruise de vitesse, c'est-à-dire sur Slate.
Merci beaucoup Martin Lange et merci à vous Ombline Roche. À tout à l'heure.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
Et de la Station Spatiale Internationale en